Tout de suite, on déhausse les raquettes.
1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kenéen.
Ouda Benyamina.
Hassan Youssoufa.
Déborah Lucumwena.
Oulaya Mamra.
Jessica Kalanda.
Et il et elle, ce soir, eh bien, sont divines.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah.
Elle est rouge Brésil, cette rentrée. J'emprunte ce titre du prix Goncourt 2001 Jean-Christophe Ruffin parce que ça sert aussi à ça, les prix Goncourt. Et puis parce que la formule abrasive s'est imposée à moi pour une autre actualité, la probable destitution de la future ex-présidente guerrière du Brésil, Dilma Rousseff, et les réactions qu'elle suscite dans le monde de la culture. Aujourd'hui, au Sénat, Dilma Rousseff présentait une ultime défense, accompagnée de l'ex-président Lula, mais aussi du père de la musique populaire brésilienne, Chico Buarque, et ça n'est pas un hasard. Qu'ils aient voté ou non pour Dilma, voire qu'ils l'écrivent critiqué comme l'acteur Wagner Moura, héros populaire de la série Narcos, artiste et intellectuel dénonce un golpe, un coup d'État. Rapprochement avec celui de 1964 pour les anciens membres du mouvement tropicaliste, luxuriant et mutant, engagé contre la dictature.
O monumento não tem porta. A entrada é uma rua antiga, estreita e torta. E no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta.
Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil devenu ministre de la Culture, c'est tout le tropicalisme d'hier qui se joint à la révolte d'aujourd'hui. Dans un pays où le gouvernement d'intérim est allé jusqu'à supprimer le ministère pleinement dédié à la culture, le remettre en place en mai n'aura rien changé. À Sao Paulo, lors de l'occupation de la Funarete, fondation dédiée aux artistes, on réclamait plus de valeurs culturelles que de capital. Et c'est ce mot d'ordre qui résonnera sans doute encore lorsque le rappeur engagé Criollo ou les musiciens de Meta Meta investiront le 4 septembre prochain le festival d'Île-de-France. Bref, après les Jeux Olympiques, cette phrase de la jeune metteuse en scène et scénariste Marta Quisperone résonne. Le Brésil va mal, mais toute médaille possédant deux côtés, il bouge. Ouda Benyamina, vous êtes avec nous, réalisatrice de Divine. Il est beaucoup question de money, money, money. Je fais un geste que les auditeurs ne peuvent pas voir avec la main comme ça qui fait sortir des billets. Ce slogan, plus de valeur culturelle que de capital, c'est aussi un peu celui de Divine.
C'est la thématique même de mon film, qui est le combat entre le politique et le sacré. Aujourd'hui, le politique qui incarne les valeurs de l'argent, de l'ego trip. Donc c'est en plein dans le thème de mon film.
Tu retournes à ta place.
Tu retournes à ta place, je sais.
Et toi, Dounia, tu prends sa place. Allez. Donc, bonjour, que puis-je faire pour vous?
Alors déjà, la base, vous avez oublié quelque chose. C'est inadmissible, d'accord? Je crois que vous avez oublié le smile, hein? La base, c'est la base.
Tu te calmes, tu n'as pas à me parler comme ça.
Le respect, il est mort.
Parce que vraiment, t'avais tout pour l'avoir, cet examen d'hôtesse, mais t'as pas envie, donc on passe à deux autres. Va t'asseoir.
Non, mais cet examen d'hôtesse redescend. Ma mère, elle est hôtesse, elle a pas eu besoin de ton examen de merde, là.
Ah oui, et qu'est-ce que tu veux faire, tiens, dans ta vie? J'aimerais bien savoir. Toi?
Bah, comme tout. Money, money, money. Money, money, money.
Money, money, money.
Ce n'est pas un concert ici. C'est justement ce que je te propose, moi, de faire de la monnaie, comme tu dis.
Ah ouais? Parce que toi, t'en as vu beaucoup des millionnaires qui font BEP à Caille.
Il y a plein de gens très bien qui le font.
Mais c'est pas des millionnaires, comme vous êtes pas des millionnaires.
Mais ce que tu comprends pas, merde, c'est que j'essaye de vous aider.
Mais nous aider à quoi? Nous aider à être des darbons de la société, c'est ça?
Divine, c'est donc l'éducation criminelle et sentimentale de Dounia, la bâtarde, comme on l'appelle, qui, épaulée par sa copine Maïmouna, la fille de l'imam, est décidée à faire de la monnaie, de la moula et à devenir une femme, une vraie. Et pour cela, Ouda Benyamina, ces divines adolescentes vont emprunter la voie sombre, celle du deal de drogue, jusqu'à ce que l'amour et la mort entrent dans la danse. Divine a ébaubi la critique à Cannes, remporté la caméra d'or et sort enfin en salle mercredi, votre film, qui est annoncé par certains comme un coup de poing. Vous, c'était quoi votre intention avec ce film? C'était de nous lancer, à nous spectateurs, un coup de poing ou une flèche dans le cœur?
Alors au début, quand j'ai commencé l'écriture avec d'abord Malik Rumeau et ensuite avec Romain Compain, j'avais envie d'abord d'émouvoir, parce que la chose qui nous réunit tous sur cette terre, c'est l'émotion, c'est la seule chose qui ne ment pas, et ensuite d'amener à une réflexion par un constat plutôt dur, mais en même temps on rit pas mal dans Divine, même si il y a un basculement dans l'histoire. Mais j'avais envie à la fois que de toucher le cœur et ensuite la tête, le cerveau.
Oulaya Amara, vous êtes Dounia, Déborah Lekoumouena, vous êtes Maïmouna. Vous avez dit, je crois, Oulaya Amara, qu'on ne joue pas un rôle, on le devient. À la manière de Simone de Beauvoir, un peu paraphrasée pour l'occasion. Je vous entendais lorsqu'on écoutait cet extrait de cette scène inaugurale du BEP Accueil Hôtesse, répéter toutes les répliques, vous les reviviez à nouveau. Est-ce que Oulaya Amara, vous êtes devenue cette Dounia?
Oui, exactement. En fait, j'ai dû, pour pouvoir jouer, en fait, il a fallu que je me mette dans sa peau, en fait, pour pouvoir surtout la comprendre et pas la juger. Il a fallu que je passe par tous ces états. Il a fallu que je me nourrisse, en fait, de pas mal de choses, comme aller dormir au camp de Rome, par exemple, parce qu'elle vient des camps de Rome, donc. Voilà, mais aussi j'ai beaucoup regardé des films, j'ai cherché un côté rugueux en moi, donc voilà, j'ai fait de la boxe, et c'est là où je dis qu'en fait il faut le devenir, parce que on joue pas pareil en fait. Je pense que tout c'est là où les grands acteurs sont les grands acteurs. Pour la petite anecdote, De Niro dans Taxi Driver, elle a passé 6 mois dans un taxi. Moi, c'est ces chemins-là que j'ai envie de prendre. C'est l'identification au personnage, c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir l'interpréter. Et j'ai été Dounia, d'ailleurs, c'est pour ça que je le revis quand je l'entends, c'est que maintenant, ça a fait un petit peu partie de moi, même si je m'en détache de plus en plus. Voilà, elle m'a habité pendant quasi un an et demi, cette fille, donc... Il y a encore des traces.
Mais quand on voit votre personnage, Oulaya Amara, donc Dounia, sur l'écran, un personnage qui, comme le rappelle aussi le chef opérateur du film, change presque à chaque plan, que ce soit dans son apparence, la lumière qui l'éclaire, dans sa coiffure. Moi, j'ai pensé au morceau de rap Le Monde ou Rien, d'un groupe qui s'appelle PNL, qui marche très fort, et où un des chanteurs dit qu'il escalade ses péchés. Vous, il vous a fallu aussi escalader vos péchés pour parvenir à être ce personnage?
Ouais, il a fallu escalader. Exactement, en plus, vous avez touché un petit point. Non, c'est vrai, j'ai dû... La vérité, c'est que je savais pas que j'avais ce côté en moi. J'ai toujours pensé que j'étais une petite princesse, que je pouvais pas, moi aussi, avoir la rage, avoir cette rage, vraiment, d'aller tout en haut et de conquérir le monde. Mais en fait, je l'ai eu, cette rage, et je pense qu'on l'a tous au fond de nous, mais que ça arrive à des moments de notre vie un peu précis. Et là... Pour le coup, j'ai découvert une part sombre, mais si, je vais le dire quand même. j'ai découvert que je pouvais être aussi, que je pouvais aussi avoir cette rage et ce côté, grande bouche qui se laisse pas faire. Et après, d'ailleurs, même dans ma vie, ça a été... Voilà, ma mère, je me souviens, elle appelait Ouda, elle lui disait mais rends-moi ma fille, là, c'est pas possible, elle a jamais été insolente, elle est où, ma princesse, là? Et du coup, voilà.
Et Déborah Lekoumouena, vous aussi, vous êtes en escalade de vos péchés pour réussir ce rôle de Maïmouna, ou est-ce que, au contraire, vous êtes laissée glisser sous la pente? En tout cas, l'une comme l'autre, je crois que vous avez dû vous battre pour convaincre Ouda Benyamina, la réalisatrice, de vous prendre, parce qu'il y a eu la première bagarre, finalement, le premier tournage, ça a été avant, quand ça s'est passé.
Exactement, c'est on a Oulaya et moi, on a deux chemins différents, mais on a là où on se ressemble, c'est qu'on a dû pendant un très long moment, 9 mois, convaincre Ouda justement du fait qu'elle ne pouvait prendre personne d'autre que nous. D'une part, Oulaya justement, parce qu'elle Ouda, enfin la difficulté d'Oulaya, c'est que Ouda la connaissait trop. Donc du coup, elle la connaissait dans une nature qui était trop opposée au personnage.
Au sein de l'association Mille Visages, on y reviendra.
Bien sûr. Et moi, ma difficulté...
C'est sa sœur.
Aussi. Et moi, la difficulté, c'est qu'elle ne me connaissait pas. Et qu'elle a dû apprendre à me connaître, apprendre à voir qui est-ce qu'elle avait en face, si j'avais les épaules ou pas pour interpréter le rôle. Et est-ce qu'elle a des dépêchés? Non, par contre, j'ai dû énormément prendre sur moi... Par rapport justement, Oulaya parlait du jugement du personnage. J'ai été tentée à plusieurs reprises de prendre une position de juge vis-à-vis de Maïmouna. J'avais un côté assez moralisateur qui aurait très bien pu totalement gâcher ma prestation, parce que j'étais dans une distance pas méprisante, mais c'est vrai que ces choix discutables m'ont causé quelques insomnies quand même.
Il faut peut-être resituer l'intrigue. Vous êtes dans une amitié fraternelle. Vous pouvez compter l'une sur l'autre pour traverser les épreuves. Maïmouna, vous allez être entraînée dans cette quête finalement de sacré, mais de sacré brûlant, qui va être celle du personnage de Dounia. Et je ne vais pas vous donner la fin du film, mais en tout cas, c'est donc cette alliance amicale qui va donc se jouer entre ces deux personnages féminins. Et vous, Ouda, Benyamina, pourquoi vous n'aviez pas été au départ convaincue ou pourquoi vous n'étiez pas encline à les prendre? Pourquoi vous leur avez passé ces 9 mois d'épreuve qu'elle raconte?
Parce que avoir un rôle, ça se mérite déjà. Et puis, il fallait que je teste leur endurance. Je suis assez exigeante. Pour moi, faire un film, c'est comme préparer les Jeux Olympiques. Il faut avoir une condition physique. Et puis, il faut aussi avoir un mental absolument... un mental de fer, parce que je les ménage pas, je suis exigeante, je ne lâche jamais, et il fallait que je voie si elles en étaient capables. Et elles ont été extraordinaires. Moi, pour moi, j'ai eu Harvey Keitel, De Niro, Depardieu. Elles ont vraiment la force de ces grands comédiens. À la fois, elles ont le sens de la dramaturgie, du point de vue, et en même temps, une humanité et une générosité extraordinaire.
On a un aperçu peut-être, Ouda Benyamina, de vos relations avec vos actrices, avec vos acteurs, dans une scène qui est dans le film, avec le personnage que joue Kevin Michel, qui joue Jiggy, qui est un danseur qui s'affronte à son chorégraphe, au moment où Maïmouna et Dounia sont dans les cintres et regardent un peu éberlués, découvrent ce monde du spectacle vivant. Et Rebecca Lukumwena, vous avez Déborah.
Rebecca va nous rejoindre, mais enfin, Rebecca, c'est un des personnages du film.
Déborah Lukumwena,
donc, je n'en veux pas.
Vous êtes Maïmouna et vous amusez à taquiner un petit peu les danseurs qui sont sur le plateau, et vous constatez l'affrontement qu'il y a entre le chorégraphe et ce danseur, et vous dites, alors c'est quoi votre réplique, puisque vous les connaissez par cœur, si j'étais le chorégraphe?
Si j'avais été le chorégraphe, je crois que ça impliquait une droite, j'aurais mis une droite, t'es pas content, tu dégages, cousin.
Il y a eu des moments comme ça avec Ouda Benyamina, ou proche de ça, sur le tournage? D'affrontement comme ça, physique, entre vous, au plus fort
de
la concentration
physique, pas d'affrontement physique et pas pendant le tournage, mais me concernant, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, du coup, pendant le casting, de me retrouver face à une femme qui ne me connaissait pas, à qui je ne devais rien et qui ne me devait rien, mais qui se trouvait, dès le premier jour, très exigeante et très demandeuse. Donc, il n'y a pas eu un affrontement. Mais c'est vrai que j'ai observé des blocages par rapport à ça, ouais.
Il y a ce titre, Ouda Benyamina, divine. Vous avez pu dire que dans chacun de vos films, vos courts-métrages précédents, comme dans celui-là, vous cherchiez Dieu. Sa présence est manifeste, certes dans le titre, mais aussi dans des éléments de l'histoire. On dit que le diable est dans les détails. Est-ce que Dieu s'est manifesté à vous dans certains détails au cours du tournage ou depuis, peut-être, que ce film fait un beau voyage?
Tous les jours, à chaque moment, chaque seconde. Oui, il est en nous, en vous, pour moi. En fait, il faut une pleine conscience et être dans le dépassement de soi et dans la recherche de la vérité et de la beauté. Et à ce moment-là, on essaye de le percevoir. Maintenant, si je le trouve, je pense que je meurs. Mais en tout cas, je suis dans cette quête de beauté et d'élévation spirituelle. Pour moi, la spiritualité, c'est tout ce qui est qui parle de l'intériorité, en fait, le retour à son soi profond. Voilà.
Et justement, le film transcende, on va dire, les clivages anciens-modernes. Dans cette quête, en fait, de spiritualité, c'est-à-dire que quand on regarde votre film, on est surpris par le travail des images, à la fois à la grammaire complètement contemporaine, des vidéos au portable filmées à la verticale. On peut retrouver aussi une scène où nos deux héroïnes se retrouvent à s'imaginer en train de conduire une Ferrari en Thaïlande. Et il y a une forme de tour de la caméra qui peut nous rappeler aussi le filmage de certains clips de rap. Il y a une grammaire très contemporaine. Il y a en même temps la Grèce antique, la tragédie qui est là, qui est extrêmement présente. Donc comment finalement vous avez travaillé cet ancien et ce moderne dans le film?
Parce que pour moi, c'était un peu le mot d'ordre à tous mes collaborateurs, c'était de travailler le contraste. Ce qui m'intéresse, c'est le contraste. Parce que la thématique du film, c'est le combat qu'on mène contre soi-même. Il passe par pas mal de... on va le dire, de choses par des épreuves et que je cherchais absolument l'obscurité, la lumière. C'était un peu une sorte de mot d'ordre à tout le monde, à ma chef décoratrice, à Julien Poupard, mon chef opérateur, de chercher. J'avais un dossier iconographique très, très précis sur certaines peintures.
Par exemple, c'est vrai que la scène inaugurale nous fait penser à une peinture.
Et ben là, j'ai pas mal utilisé Bosch, Rembrandt sur les personnages. En l'occurrence, vous étiez en train de citer la manière de comment on a montré Dounia avec le chef opérateur. Et ça a été quelque chose d'assez important par rapport à son évolution globale. Il y a Degas, bien évidemment. J'adore sa manière de peindre l'être tel qu'il est et pas tel qu'on le fantasme. Voilà, il y a eu pas mal de photos. Je suis une grande fan de Ouija's. J'adore comme il va chercher la vérité chez l'être.
Ça, c'était la grammaire, c'était les références iconographiques. Et vous dites que vous avez donc travaillé dans le contraste. Je crois qu'il y a même aussi des références à des documentaires animaliers pour certains travails de prise de vue et d'écriture de scénario. Mais comment justement vous aviez l'intention à dire de transcender ce qu'on pourrait appeler un film moderne sur les quartiers populaires?
En fait, je voulais pas faire un film réaliste. Je voulais vraiment décoller et aller vers une forme un peu onirique. Donc on a beaucoup cherché, d'abord par l'écriture avec Romain Compin, comment je pouvais décoller. Donc bien évidemment, j'ai trouvé la musique sacrée, qui était un élément qui a incarné ces envolées lyriques. Mais aussi, il fallait qu'à des moments, le personnage il soit en prise avec une sorte de voix un peu. C'est pour ça qu'elle entend le Coran à des moments quand elle est dans la cave. J'avais envie qu'on décolle. Qu'il y a aussi une autre vérité qu'on ne voit pas. Et je crois que c'est celle-là qui m'a réellement intéressée. Et par l'image, par le mouvement de la caméra, on a cherché, avec Julien, à incarner le sens en cherchant à chaque fois une nouvelle grammaire. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de maîtres, c'est-à-dire que je travaille pas avec des références, mais j'ai regardé beaucoup de films, mais je m'en détache. Je dis que je respecte mes maîtres, mais je m'assois sur mes maîtres.
Vous les tuez même?
Non, je les tue pas, je les admire trop. Mais en tout cas, je m'assois dessus quand je tourne et je dis toujours, j'ai pas envie de faire un film. Je préfère un film raté qu'un film moyen. Donc, je tente plein de choses. Je suis très laborieuse. On fait pas mal de repérages avec Julien. On fait des essais. Les acteurs viennent avec moi dans les repérages parce que j'ai envie aussi qu'ils se sentent chez eux dans cette cité et que quand on arrive au moment du tournage, il n'y ait pas de différence entre quand ils sont chez eux et les repérages. Donc, il y a vraiment un gros travail même d'identification avec mes collaborateurs techniques. Voilà.
Oulaya Mamra, à l'instant, Ouda Benyamina nous explique un peu la nature des contrastes qui animent ce film divine. Vous avez pu parler du Coran qui est présent. On parle beaucoup de la civilisation, de la culture arabo-musulmane dans les médias, dans le discours des politiques français aujourd'hui, d'une façon peut-être un peu monolithique. Et justement, il y a des contrastes dans ce film. Et à ce propos, j'aimerais bien que peut-être que vous nous présentiez l'homme et la femme qui vous servent de parents dans le film, où il y a à la fois cette femme qui est votre mère, qui est danseuse, qui est alcoolique, qui a un cœur d'artichaut. Et puis celui qui joue un peu le rôle de votre beau-père, qui est ce travesti, moitié Dalida, moitié Zavatta.
C'est ma tante Cassandra. Alors déjà, je tiens à dire à quel point cette actrice Majdouline Idrissi, qui joue ma mère, est talentueuse. J'ai beaucoup, beaucoup appris d'elle pendant le tournage, puisqu'elle est d'une concentration... Elle est digne des très très grands acteurs pour moi et voilà, j'ai beaucoup appris. Qu'est-ce qui signifie en fait, c'est ça?
Oui, ou qui sont-ils pour les auditrices et les auditeurs qui vont découvrir le film bientôt? Parce que justement, c'est des personnages vraiment intéressants, étonnants. Il y a de la surprise et de l'étonnement à les rencontrer là où vous habitez, où habite votre personnage, dans le camp de Rome.
Ouais, bah en fait, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'Ouda, elle est revenue sur... déjà, j'habite dans un camp de Rome. Parce que le constat étant qu'aujourd'hui, en France, on a des camps de Rome qui poussent à floison. Avant, comme disait Ouda, on avait les pauvres. Voilà, mais là, il y a encore plus pauvres que les pauvres. Il y a les Roms. Et malheureusement, dans ces camps de Roms, on s'est rendu compte avec Ouda qu'il n'y avait pas que des Roms, mais il y avait aussi des Français, il y avait des Français de souche, il y avait des Français qui est même de classe moyenne. Et je pense que c'est ça qui est important de savoir. Dounia, elle vient de là. Et c'est pour ça qu'elle se bat pour arriver tout en haut. C'est parce qu'il y a la misère et que voilà, c'est un choix qu'elle a pris. Et ses parents, enfin sa mère, c'est tout le contraire de ce qu'elle a envie d'être. Donc pendant tout le film, voilà, sa mère qui est plutôt très libérée, j'ai envie de dire, elle est très libre. Et ben elle, en fait, elle est. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a ce rapport avec les hommes où elle est quand même plutôt méfiante. C'est même elle qui a le rôle de la mère, en fait, dans leur relation, puisque c'est elle qui s'occupe d'elle, qui lui prépare la douche. D'ailleurs, Ouda nous avait fait... Elle a fait référence à une peinture, c'était quoi ? C'était elle aînée portant chise.
Exactement.
Ça. Et c'est un peu ce tableau, la mère et la fille, en fait. C'est vraiment... voilà, Dounia endosse toute la responsabilité de sa mère, en fait. Et puis, pour Cassandra, c'est un rôle haut en couleur, parce que c'est, je pense, dans le film, voilà, il y a des petites touches comme ça de couleur qu'Ouda elle a imposées dans le film. Et Cassandra, je trouve que sans lui, sans elle, le film serait pas pareil. Parce que je trouve que c'est, voilà, on a tellement de, comme vous disiez Ouda, elle joue sur les contrastes.
Tout Cassandra, le travesti sur un quad,
exactement,
au cœur de la cité,
sur un quad avec Maïmouna et Dounia qui s'éclatent. Enfin voilà, c'est trop bien.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Burning and Looting pour la musique Bob Marley. Pour ce qui est des mots, vous les avez reconnus, ce sont ceux de la haine en 19... Ouais, vous avez gagné le blind test sonore. On est en 1995, hein, lorsque la haine obtient le prix de la mise en scène à Cannes. Premier film comme ça sur les quartiers populaires à faire son entrée donc au Festival de Cannes, à faire connaître ce que peut être la vie dans les quartiers populaires. Comment ça résonne aujourd'hui, 21 ans après, la haine, pour vous par exemple?
C'est un film dont la référence nous a souvent...
Déborah Lokoumouna.
C'est un film dont la référence nous a souvent été donnée. Et d'un point de vue extérieur, je peux absolument comprendre. On nous a même dit, est-ce que Divine est une volonté d'être... Est-ce que c'est une suite de la haine? En fait, je pense que la haine comme Divine sont des constats en phase avec leur époque. Donc, pourquoi Divine n'est pas une pâle copie de la haine? Parce qu'elle ne fait pas le constat de la même société, de la même époque. C'est vrai qu'il y a certains points qui se rapprochent, mais de ce que je vois, c'est un très beau film, la haine, et je le respecte absolument, mais il y a un... Peut-être s'il y a l'ordre un peu du manichéisme présent dans la haine qui n'est pas forcément un curseur que Ouda a utilisé. C'est vrai que dans Divine, il n'y a ni de bon, il n'y a pas de bon ni de méchant. Il y a juste des humains en phase avec leurs contradictions et avec leurs erreurs. Et d'ailleurs, c'est la portée de tout le film. C'est une fille qui va se rendre compte enfin de l'importance de la responsabilité et de comprendre ses erreurs. Donc c'est vrai qu'il y a des thématiques qui se reprochent, mais je trouve qu'ils se rapprochent, mais c'est pas le même curseur.
Ouda Benyamina, vous avez insisté sur cette idée que c'était pas un film sur la banlieue, je crois, au moment du financement, au moment de la présentation du film. Pourquoi ?
Oui, c'est vrai, mais maintenant je reviens sur mes... j'évolue. Non, mais c'est vrai.
À chaque plan.
Non, mais moi j'évolue, moi je suis une laborieuse. Je ne change pas, mais j'évolue. En fait, c'est vrai que, en fait, quand on nous a beaucoup reproché d'être le énième film de banlieue, alors que le énième film parisien ne dérange personne. Alors aujourd'hui, j'ai plus envie de me défendre, parce qu'aujourd'hui, on dit toujours c'est un film de banlieue. Oui, alors c'est un film de banlieue, puisque ça se passe en banlieue, avec des Français d'origine maghrébine et africaine, qu'il y a un peu toute la, on va dire, tout le jargon qu'on peut rencontrer en banlieue. Et puis je pense, comme Scorsese qui adorait faire des films à New York, eh ben que la banlieue, ça peut être un vivier. Il y a un potentiel absolument énorme. Et j'ai plus envie de m'en défendre, en fait. C'est ça, surtout. Moi, ce que j'ai voulu avant tout, c'était de dépeindre une humanité, un constat sociétal aussi, familial, politique. Mon film, il a un peu tout
tout ça, même au niveau des genres, j'ai voulu m'en amuser. Il y a un peu de comédie romantique, il y a un peu de... des fois, on tourne dans le film d'action, et puis à un autre moment, on est plus dans un film presque voilà, onirique. Donc voilà, j'ai voulu, comme je dis... voilà, tout exploser en fait et chercher la vérité avant toute chose. Et la banlieue, voilà, ça peut, c'est un endroit où il se passe plein de choses hyper intéressantes, où tous les artistes devraient aller. Et je veux arrêter qu'on s'en excuse. On y est. J'aime ma banlieue.
T'es malade ou quoi ? Mais t'as jamais t'entendre comme ça ?
Tu veux quoi ?
On veut bosser pour toi.
Tu te crois pas l'emploi quoi ?
1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong, l'émission qui rêve comme divine d'être organique, onirique et picturale. À suivre, Le Caïd était une femme, rencontre avec une autre femme puissante de votre film divine, Una Benyamina. C'est Jiska Kawanda qui nous rejoint, alias Rebecca, la dealeuse formée aussi au sein de l'association Mille Visages, dont Oussoufa Hassani va venir nous présenter le fonctionnement, mais tout de suite, encore plus de femmes. Musique.
Ping Pong. La culture sans limite.
La femme n'existe pas, ça c'est Lacan qui le dit, et pourtant la voici, la femme, n'est-elle la divine Aphrodite de l'écume d'une vague, de l'océan Atlantique? Et la femme est un groupe de musique qui, avec son nouvel album Mystère, fait palpiter le petit cœur de Ping Pong et de son programmateur musical Thomas Beau, et ce pour au moins trois raisons. Petit A, parce qu'à l'heure de la rentrée littéraire, voilà un groupe qui chante en français et qui ose nous raconter des histoires d'amour, d'errance et de mycose, en se foutant presque ou tout à fait des rimes et des refrains. Petit B, parce que la musique de la femme, simple en apparence, se révèle vénéneuse et sous influence, sensuelle et toxique comme le LSD, l'Amérique des 60s et ses orgues ondoyants, en passant par la rue Saint-Denis et les ballades de Lou Reed sur le versant sauvage de la ville et de la nuit, et petit C, parce que la femme chante à l'envi, et singulièrement sur le titre qu'ils vont maintenant nous interpréter, la langueur et les regrets de la fin de l'été, et en même temps la promesse que l'adolescence ne s'achèvera jamais.
Enfant que tu as été, enfant que...
La femme, septembre, en live dans Ping Pong, avec dans le désordre Sacha Gott, Marlon Manier, Clémence Kellenek, Sam Lefebvre, Lucas Nunez et Noé Delmas. Mystère, leur nouvel album est paru chez Barclay et La femme sera en concert, eh bien, en septembre, justement, à Angers, à Madrid, à Rouen, et puis en octobre à Besançon, Barcelone, Zurich, Jouer-les-Tours, Boulogne, Turin, Nancy, Montpellier, Nantes et à l'Accor Hôtel Arena, on disait Bercy au XXe siècle.
Oui.
C'est à Paris, avant une tournée à l'américaine et en Amérique du Nord, du Sud et même du milieu au mois d'octobre et novembre. Et ça continue, tout est sur lafamemusic.com.
Money, money, money.
Money, money, money.
Ce n'est pas un concert ici. Maïmouna, tu fais une ronde chaque 15 minutes. Tu regardes bien par là et par là pour voir s'il n'y a pas une brigade qui arrive. Les stups, c'est facile de reconnaître. Ils sont soit en C4 noir, soit en focus bleu, soit en 308. Donc, tu ouvres bien tes yeux. Moi, je suis mon pote.
Wesh.
Ça va ou quoi? Tranquille, la famille?
Ouais.
Eh, c'est mes petites, elle remplace Samir. C'est un enculé, ce mec, ok? Faites bien attention, essaie de pêcher tout le monde qui est en bas. Aïmouna, tu couvres bien Duna quand elle est sur la cave. Okay. Pas de problème, ok? Pas d'histoire. Et non, je vous connais pas, vous me connaissez pas.
Ambiance western avec Jiska Kawanda alias Rebecca la dealeuse qui gère ses places de deal comme une bonne entreprise. On ne reverse pas tout au fisc et on a des méthodes particulières. Vous êtes dans Divine, Douda Benyamina qui sortira sur les écrans mercredi. Rebecca nous a rejoint, enfin Jiska Kawanda, vous avez été formée aussi au sein de cette association Mille Visages, qu'il faut le rappeler, est votre association, Douda Benyamina, parce que vous l'avez créée juste après les émeutes de 2005. C'est aussi un petit peu à ce moment-là qu'est né le film, mais on en reparlera. Donc une association qui va démocratiser le cinéma, qui va former aux écoles, aux concours, aux grandes écoles, conservatoires et autres. Comment vous êtes devenue cette Rebecca, ce mec, puisque c'est un personnage masculin, féminin, assez important dans le film?
Comment je suis devenue Rebecca?
Oui, parce que on n'est pas dans un rôle, on le devient.
Bah exactement. Et puis je suis pas d'accord. C'est pas un rôle de mec, non. Mais faut le dire quoi. Il y a des femmes, elles sont dealeuses qui tiennent des quartiers, qui tiennent des fours comme on appelle. Puis voilà quoi. Enfin. J'ai dû travailler, comme Oulaya l'a dit tout à l'heure, on a vraiment fait un travail d'identification. Le rôle de Rebecca est inspiré par une vraie femme qui existe. Du coup, je me suis beaucoup inspirée d'elle, j'ai traîné avec elle. Après, je suis partie sur le terrain, parce qu'il faut... Enfin, je peux pas regarder des reportages enquête exclusive, ça marche pas comme ça avec Ouda. Du coup, j'ai été sur le terrain, j'ai appris comment on découpe du shit, on l'emballe, comment on vend, quoi, les mots, les termes. Parce que je pense que c'était important. Rebecca, elle est vraiment très, très, très loin de Jiska, en fait. Je devais...
Jiska, c'est vous.
Oui, Jiska, c'est moi. Enfin, parce que, du coup, on devient fou dans ce métier. Hein. Moi, je vous le dis, dans ce métier, c'est... Voilà. Et puis voilà, quoi. Après, j'ai regardé des films, j'ai regardé Scarface, j'ai regardé Les Parrains... Je me suis rasé la tête. Enfin, aussi, fallait me durcir, en fait. Fallait vraiment trouver quelque chose de très dur en moi. Les cicatrices. J'ai beaucoup travaillé avec la maquilleuse, avec la coiffeuse. Comme Ouda disait tout à l'heure, c'est vraiment que... Enfin, on est une équipe, c'est-à-dire qu'on est une... C'est un ensemble, en fait. Le cinéma, c'est vraiment un tout. Ça peut pas être que moi, par exemple. Oui, c'est vrai que c'est moi qui interprète, pardon, c'est ma prestation, mais enfin, tout le monde m'a apporté, la coiffeuse, elle m'a apporté, la maquilleuse, Ouda, elle m'a beaucoup poussée, voilà, Oulaya, elle m'a apporté, elle me conseillait, Déborah, elle me disait, ouais, c'est bien ça, jusqu'à, enfin, c'est vraiment un ensemble, et il y a que comme ça que j'ai pu être Rebecca.
Mais parlons encore un peu de votre personnage, Jiska Kawanda, parce que donc Rebecca, cette dealeuse, elle a un rapport presque spirituel avec l'argent. Elle explique que c'est un flux d'énergie, qu'il faut le visualiser pour le faire apparaître. Vous, si vous vous concentrez aujourd'hui, après cette expérience, ouais. Qu'est-ce que vous voyez?
Et on est vraiment à France Culture.
Ah mais ouais, là c'est...
On fait de la pleine conscience grâce à vous, Ouda Benyamina.
Mais le niveau des questions, il est extraordinaire. Non mais franchement, et puis vous avez vu des choses du film qui sont... Honnêtement, je suis bluffée. Parce que c'est vraiment incroyable tout ce que vous avez vu. Mais depuis tout à l'heure,
Qu'est-ce que vous voyez jusqu'à Kavanda?
Là, je ferme les yeux, là, je visualise là. Là, ce que je vois là. Je vois les trucs de ouf pour le film. Non, mais oui, vous avez raison, quoi. Rebecca, elle a. C'est. Comme elle dit, c'est. Moi, mon argent. Enfin, non, elle dit quoi? Elle dit, moi, mon frère, c'est mon argent. Elle dit ça au personnage de Samir. C'est que elle, pour elle.
Samir, le postier qui tient.
Exactement.
Qui son bras droit,
hein, voilà, c'est mon petit larbin, là. Tout à l'heure, quand je faisais ça, c'était à lui. Et puis, non, mais oui, vous avez raison. Rebecca, elle a. C'est, pour elle, en fait, c'est l'argent, quoi. C'est son tout. C'est son repère. C'est son. Je sais pas, mais c'est comme
vous voir vous frotter les doigts, hein, que vous avez un peu verni davantage que votre personnage dans le film.
Oui, c'est vrai que j'ai pu redevenir jusqu'à, j'ai eu la chance.
Mais en effet, vous avez raison, il y a la notion du dieu argent, en fait. C'est assez juste. Ouais. Et le personnage de Rebecca, il visualise, mais il ne fait pas que visualiser. Il lui dit, tu visualises et tu coupes, tu fais. Et tu visualises. Et il y a une notion aussi, quand elle lui dit « Pourquoi les pauvres, ils restent pauvres, à ton avis ?» Elle lui dit « Mais c'est parce que les riches, ils prennent tout. » Elle dit « Non, c'est parce que le pauvre n'ose pas. » Il y a aussi un discours au-delà, il y a un discours politique. Elle a une vision politique des choses. Quand on a travaillé avec Gisca, je lui ai dit « Dis-toi que le personnage de Rebecca, dans un autre contexte social, il aurait fait l'ENA ou HEC. C'est une femme d'affaires, en fait, avec une vision. Mais c'est assez intéressant. Oui, en effet, la question du dieu argent, elle est complètement présente, puisque pour moi, peut-être que le diable est la face cachée de Dieu aussi.
C'est la figure politique du film, hein, vous dites, ce rôle qui est incarné par Gisca, ce rôle de Rebecca. Là, on va dire, le principe politique, il est au départ aussi dans cette association de mille visages, puisqu'il y a un principe de réaction à la contestation dans les quartiers populaires en 2005. Je crois que vous dites à ce moment-là, Ouda Benyamina, qu'il n'y a pas de formulation, de demande, il n'y a pas de choses concrètes qui émanent après, on va dire, les scènes d'embrasement. D'ailleurs, il y a une scène d'embrasement dans Divine qui a cette espèce de romantisme un petit peu des scènes d'embrasement qui est belle comme ça. Mais on sent que vous, justement, à ce moment-là, vous vouliez autre chose, vous fondez cette association. Et justement, vous l'en parlez avec Oussoufa Hassani, comment... est-ce que, voilà, depuis qu'elle existe en 2006 jusqu'à cette sortie de Divine, maintenant 10 ans plus tard, vous avez vu évoluer les choses, comment finalement ça s'est transformé concrètement, ce message, cette envie politique à la base? Peut-être l'homme de la situation, parce qu'il n'y en a que deux finalement autour de cette table, Oussoufa Hassani.
Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît?
Comment finalement, de 2006 à 2016, vous avez vu concrètement exister cette proposition, ce désir de démocratiser le cinéma qui naît au départ avec Mille Visages?
Comment moi, est-ce que je le raconterais? Je prendrais vraiment plaisir à rappeler cette historique d'Ouda qui, au début, allait crier sur tous les toits qu'il fallait modifier le cinéma, qu'il fallait que les choses changent, qu'il fallait que les choses évoluent. Et qui, cependant, au début, n'avait pas forcément de facilité, n'avait pas forcément tous les contacts. Mais dans cette volonté, dans cette hargne, il y a quelque chose qui a commencé à changer. Les portes ont commencé à s'ouvrir, les gens ont commencé à écouter. Et aujourd'hui, en 2016, on a ce point de vue-là. On est capable de voir le fruit, justement, de tout ce travail, de tout ce combat. Donc, moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est comme ça que je les perçois, ces 10 années de travail.
Et oui. Par exemple, est-ce que vous pourriez nous raconter l'accompagnement d'être d'une ou l'autre des actrices, ou peut-être le travail que vous faites aujourd'hui sur un long métrage?
L'accompagnement des actrices, je pense que Ouda pourrait s'en occuper. Mais le travail que moi je fais au sein de l'association, c'est justement comme vous l'avez dit, c'est le travail justement d'aller chercher les jeunes, de leur faire comprendre qu'il y a cette association qui existe, qui a pour volonté de démocratiser le cinéma, c'est-à-dire que on va leur faire comprendre que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, c'est quelque chose qui existe, qui est totalement accessible s'ils font l'effort, s'ils sont capables d'être réguliers dans l'effort, et ben il y a des débouchés qui sont possibles pour eux, des débouchés que eux-mêmes n'imaginaient pas. Donc voilà comment se constitue tout notre travail.
Oussoufa Hassani, il faut rappeler qu'en 2006, quand naît cette association Mille Visages, vous n'avez que 11 ans, puisque vous avez 21 ans aujourd'hui. Vous, vous dites que vous avez connu un électrochoc en 2014 en voyant une projection, en voyant un film, et que ensuite vous vous êtes investi dans cette association Mille Visages sous la forme d'un acte de foi. On est encore dans le spirituel. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet électrochoc et la dimension spirituelle qu'il y a dans votre engagement?
Justement, oui, je peux vous le raconter. Moi, comment est-ce que j'ai connu Mille Visages? Comment est-ce que j'ai rencontré Ouda? C'était totalement par hasard. J'ai un ami qui s'appelle Mohamed Gherbi et qui justement connaissait Oulaya. Et que
Oulaya Mamra,
voilà, qui connaissait Oulaya
Mamra. Des divines,
exactement. Et qui justement me parle de cinéma, d'association, je comprends pas tout, mais qui me dit qu'il doit aller à Paris pour une projection. Donc moi, vu que Mohamed est un peu jeune, je me dis que je vais pas le laisser aller à Paris tout seul, donc je l'accompagne. Ce qui se passe, c'est que je me retrouve dans une salle de cinéma dans Paris. Ça s'appelle La Fémis. À la base, je sais absolument pas ce que c'est. Il est tard, je suis fatigué, et le film commence. Le film commence. J'ai pas pu assister au discours d'introduction vu qu'on était un peu en retard. Et donc voilà, le film est assez drôle, il est entraînant, etc. Je m'y prends un peu. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose, c'est que je reconnais à l'écran mon voisin. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, je suis à Paris, il est 22h, dans une salle de cinéma, et il y a mon voisin à l'écran. Donc le film se poursuit, et je commence à reconnaître de plus en plus de visages, de plus en plus de visages. Et là, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Donc le film se termine, il y a Ouda qui reprend la parole et qui dit que, voilà, elle réexplique que c'est un film qui a été produit justement au sein d'un atelier qui s'appelle Ciné Talent, qui consiste en fait à réunir 20 jeunes qui n'ont pas de base ou très peu dans le cinéma et qui insiste en fait à les faire passer à travers toutes les étapes de la création audiovisuelle, de l'écriture au tournage, à la production, etc., etc. Et tout ça encadré par des professionnels. Donc moi je comprends ça, je vois ces jeunes tous en rang, tous avec leurs petits t-shirts rouges, se faire applaudir dans une salle. Et d'un côté, je me sens pris comme dans une sorte de jalousie. Et je me dis quand même que si eux ont pu le faire, en fait, il n'y a aucune raison que moi non plus, je ne puisse pas le faire. Donc, l'électrochoc, il a pris forme de cette façon-là. Mais il y avait aussi tout le discours de Ouda. Tout cette espèce de volonté de dire que des choses sont possibles. Cette espèce de dire... Cette volonté, en fait, de dire que des gens comme moi sont capables de faire des bonnes choses. C'est assez triste à dire, mais ce discours-là, il n'est pas tenu par beaucoup de personnes. J'avais vraiment l'impression, en fait, que c'était une main tendue. Justement, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. Aujourd'hui, il y a des gens qui font tout un travail pour favoriser les opportunités. Mais Mille Visages, c'est pas une opportunité. C'est pas juste une porte qui est là. C'est vraiment une main tendue. Il y a tout un travail d'aller chercher les gens, d'aller essayer de leur expliquer avec bienveillance. Et moi, ça m'a touché. Moi, le fait de me dire que voilà, que Ouda s'est battu pendant des années pour que des gens comme moi puissent faire ce genre de choses, même si j'avais absolument aucune affinité avec le cinéma, je me suis dit, je suis obligé de le faire.
Ouda Benyamina, vous, dans cette histoire-là, il y a aussi une épiphanie qui précède celle que vous allez ensuite transmettre. C'est lorsque, je crois que vous avez un pion qui va vous filer un livre qui va tout changer. Ce voyage au bout de la nuit de Céline. Est-ce que ça n'a pas commencé comme ça, vous aussi?
Oui, complètement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Grégory Proch, qui est maintenant rédacteur en chef du Gris-Gris International, qui m'a donné deux choses, hein, Médée de Pasolini et Voyage au bout de la nuit. Médée de Pasolini, avec La Calas, ça a été un vrai choc cinématographique. C'était la réconciliation entre la peinture, le cinéma, la littérature, la musique. C'est un cinéma que je n'avais absolument pas l'habitude de voir et j'ai été touchée par la grâce. Et je me suis dit que je voulais faire ça. Alors pas ça, mais en tout cas, c'était vers là que je voulais aller.
Vous avez tous un moment comme ça, un peu sacré d'épiphanie, j'ai l'impression. Puisque pour vous, Oulaya Mamra, je crois que vous êtes allé à la Comédie Française. Vous avez vu un Molière, ça s'est déclenché là?
Exactement. Moi, ma sœur Ouda, elle m'a emmenée...
elle est là, ici présente.
Ici présente, c'est ça. Elle m'a emmenée à la Comédie Française quand j'avais 12 ans. Pour aller voir Le Malade Imaginaire de Molière. Et ça a été un choc. Ça a été un choc parce que je me suis retournée vers elle, je me souviens, et je lui ai dit, moi, je veux être là. Je veux faire ça parce que pour moi, c'était comme dans un rêve, vraiment. Mais déjà, de leur performance, de leur position de corps, leur voix, leur diction, tout était parfait, en fait. Et quand je me suis dit qu'à 12 ans, déjà, je me voyais déjà... Ça a été l'électrochoc qui a fait qu'aujourd'hui, je suis comédienne, vraiment.
Et vous, Déborah Lukumena?
Pas du tout. J'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un de ma famille dans ce milieu-là. Donc c'est vrai.
Vous vouliez pas non plus un t-shirt rouge.
Vous avez pas eu un choc en voyant
un t-shirt bleu
un voisin au cinéma.
Je connaissais pas. J'ai pas du tout connu mille visages ni quoi que ce soit. Moi, j'étais dans ma fac de lettres. C'est vrai que je commençais un peu à étouffer. Et c'est bête, mais c'est une mini-série qui s'appelle Les Tudors. Ça raconte l'histoire d'Henri VIII d'Angleterre. Et d'abord, je suis déjà passionnée de royauté, mais j'étais de plus en plus intéressée par la performance de l'acteur Jonathan Rhys-Meyers, qui est débordant de vitalité, une espèce de violence et une animalité que je lui jalousais. Et c'est plus comme ça en fait que mon désir est né. Et c'est ouais, c'est vite devenu quelque chose de viscéral quand même.
Mais alors, le personnage de Dounia dans le film, il vous dit, il faut être dans le futur à votre personnage de Maïmouna, son ami. Vous vous imaginez en Thaïlande. Alors aujourd'hui, vous vous imaginez quoi? Dans le turfu, vous êtes une reine?
Ou dans le cahier des rêves. Je crois que c'est aussi un travail qui se fait au sein de l'association de Mille Visages, de travailler sur les rêves.
C'est Ouda qui nous a appris ça. En fait, on doit avoir tous un cahier des rêves.
Ouais.
Ça marche.
Reine, on n'est pas encore des reines là. J'ai envie d'imaginer plein de rencontres, plein encore. En fait, tout ce que le cinéma a à nous offrir, c'est-à-dire des larmes, des frissons, des pleurs. Et des films.
Jusqu'à Kawanda, un moment d'épiphanie, la naissance du désir.
En fait, moi, j'ai pas un moment précis comme ça. Moi, c'est un peu arrivé avec le temps. C'est, en fait, ma prof de théâtre, bah, c'était Ouda. Je la connais depuis que j'ai 14 ans aussi. Et après, j'ai intégré l'association Mille Visages. Et moi, en fait, c'était au fur et à mesure, je faisais des projets.
Mais dis que t'es venue au théâtre,
oui,
à cause du Jamel Comedy Club. Parce qu'en fait, non, ce qui était compliqué.
Je croyais que vous alliez voir le Jamel Comedy Club et c'était
non,
la comédie française.
Non, c'est pas pire que
non,
ça.
En fait, c'est pas le Jamel Comedy française, bien sûr.
Non, en fait, non, il faut juste que je fasse une petite parenthèse puisque c'est ping-pong et depuis tout à l'heure, tout le monde est très poli. Donc, je reprends. Non, mais en fait, c'était
mettez
que.
Mettez ce que vous voulez sur la table.
Super. Mon clito, hein, d'abord.
On va y revenir.
Non, mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que dans les quartiers, enfin, en tout cas, les jeunes, et pas forcément dans les quartiers, ça doit être pareil partout, intéresser les jeunes au théâtre, c'est très compliqué. Du coup, pour intéresser nos jeunes, on leur a fait croire que s'ils s'inscrivaient au théâtre, ils pourraient aller voir le Jamel Comedy Club.
Voilà, c'est comme juste, ça, jamais fait.
Voilà ce que nous avons accroché.
Et juste, moi, je rectifie, parce qu'elle a accroché ces jeunes, et moi, bien sûr, elle m'a obligée à participer. J'étais la première élève avec mon grand frère, parce qu'on était ses petits frères et sœurs, on n'avait pas le choix.
On
était obligé de participer voilà, à ces cours.
Pour un Molière acheté de Jamel Offert, hein, ce sera
exactement.
Le prochain slogan de ping-pong.
En fait, j'arrête pas de dire, j'en ai rien à foutre de Cannes à mon producteur depuis le début. Quand j'étais en train de monter, je lui dis, je m'en fous de Cannes, je fais pas un film pour Cannes. Et aujourd'hui, bah, je suis contente d'être là, parce que c'est aussi notre place à nous. Cannes nous appartient, Cannes est à nous aussi. Mille visages, on est là, quoi. On est là, c'est possible. Et que ça soit une femme qui nous ait remis le prix, quoi. C'est juste une tuerie, quoi. C'est une tuerie que ça soit une femme. Et pour que les choses, elles changent, il faut mettre beaucoup plus de gens décisionnaires, que ce soit des femmes, beaucoup plus de femmes, même dans les sélectionneurs aujourd'hui. Toutes les sélections sont composées uniquement que de femmes. Des femmes! Des femmes! Nous! Je voudrais dire merci. Merci à qui? À Édouard Van Trop. Hé, hey, Vintrop, je vais le dire, t'as du clito.
Tout le monde revit la scène dans le studio ici, dans le studio de ping-pong. On est à Cannes, c'est la caméra d'or pour Divine. Ouda Benyamina, vous prononcez donc cette phrase célèbre qui est aussi une phrase du film Divine. T'as du clito, mais aussi vous interpellez les femmes. Vous dites voilà, plus de hommes, plus de femmes, plus d'hommes, plus de femmes. Pourtant, vous dites que c'est pas un film féministe, que c'est un film humaniste avant tout. C'est qui nous les femmes pour vous à ce moment-là?
En fait, quand j'ai dit c'est Cannes nous appartient à nous, personnes qui ne sommes pas issues du sérail, et puis aussi, en effet, à nous toutes femmes, parce qu'il y a une grande polémique, enfin il y avait beaucoup de polémiques sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de représentation de la femme dans la sélection, enfin dans toutes les sélections confondues. Donc c'était important pour moi à ce moment-là de dire que le problème c'était pas les films, parce que le jour où on aura le droit à la médiocrité, on aura atteint la parité, et ben que c'était plus un problème de décisionnaires et qu'il fallait beaucoup plus de décisionnaires. Voilà, donc sur les quatre sélections confondues, il y a quatre hommes, il n'y a pas une seule femme. Je trouve qu'il faut poser les bonnes questions.
Vous dites que vous faites donc non pas un film féministe, mais humaniste à ce moment-là. Après, vous avez le droit de changer, vous aimez bien changer, et c'est tant mieux. Il y a une dimension féministe aussi, mais si on revient à l'humanisme, moi j'aime bien cette définition un peu originelle de Pic de la Mirandole à la Renaissance, qui dit que dans la dignité de l'homme, le propre de l'homme, c'est sa liberté de choisir entre faire le bien et faire le mal. Et il s'agit exactement de ça pour les héroïnes de Divine, de choisir entre le bien et le mal. Dans le concert de louanges qu'on entend autour du film, il y a eu une critique assez dure de Jean-Michel Frodon, critique de cinéma sur Slate, qui lui a voulu voir une apologie de la servitude volontaire dans ce désir d'argent, de réussite matérielle de Dounia, l'une de vos divines. Est-ce que c'est qu'il n'a pas compris la dimension critique de votre film ?
Dans le champ de la pensée essentielle, toute réfutation est un non-sens. Heidegger. Je ne réfuterai pas la pensée de Frodon, bien évidemment. Je vais même essayer de la comprendre. Peut-être qu'il n'a vu qu'une partie du film et que l'autre partie lui a peut-être échappé. Je ne fais pas l'apologie. Bien au contraire, comme Degas, je ne peins pas le monde tel qu'on le fantasme, mais tel qu'il est. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de questionner sur les valeurs d'aujourd'hui. Quelles sont-elles ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour... Enfin, c'était plutôt un constat, en fait. Et j'aime dire une phrase d'Épictète qui dit « Nul homme n'est libre s'il ne sait se maîtriser », parce que mes personnages vont apprendre tout au long de ce film à se maîtriser, à maîtriser cette émotion. Simplement, l'émotion, malheureusement, si il n'y a pas la pensée, s'il n'y a pas le verbe, elle reste sans écho. Tout le combat, en l'occurrence, de ce film, c'est de dépasser l'émotion et d'amener une pensée. C'est ce qu'il n'y a pas eu pendant les émeutes de 2005. Il y a eu un mai 68, il y a eu un avant, il y a eu un après. Il y a eu un avant de 2005, il n'y a pas eu d'après. Pas d'intelligentsia qui a repris cette colère. Elle est restée sans écho. C'est une colère qui aurait pu se transformer en révolte. Ce n'a pas été le cas. Et moi, c'est ce que je questionne dans mon film. C'est ce qui m'intéresse.
Vous dites, si je trouve la réponse, je meurs. Donc vous continuez à questionner, j'imagine que c'est la démarche de la suite de ce que vous écrivez.
Absolument. Je crois que mon acte de création, il y a une partie d'inconscience, une partie que je n'explique pas, et je pense que je cherche une sorte de perfection, une sorte de vérité, revenir au mouvement. Je pense que dans mon film, c'est un film de mouvement. Vous parliez tout à l'heure. Il y a quelque chose de très animal dans ma recherche.
Oui, le sacré dans les corps, dans leur rencontre, dans leur danse.
La psychologie d'un personnage ne vient pas de ce qu'il dit, mais de ce qu'il fait. Et les acteurs, j'ai vraiment travaillé, pas simplement avec les acteurs, mais aussi avec la lumière, avec la déco, avec le scénariste, avec la dramaturgie. Comment les choses sont motivées, en fait, d'où elles partent. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'on part d'abord d'un mouvement, quel qu'il soit. Que le mouvement ne ment pas. Et ensuite, on y met une intention. Et moi, je cherche toujours à ce qu'entre le mouvement, la genèse du mouvement et l'intention, il n'y ait pas de césure. Que ce soit une sorte de continuité. C'est ce qui fait qu'on arrive à une sorte de vérité, d'animalité et ensuite peut-être de pensée.
Il y a eu récemment sur France Culture une grande traversée consacrée au nouveau féminisme, dont le dernier volet s'intitulait « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». C'est une grande traversée signée Charlotte Bien-Aimée, je vous invite à la réécouter. Avec cette idée aussi d'un féminisme, malgré tout, on parlait d'humanisme, le féminisme est là quand même avec ces personnages de femmes puissantes. Ce féminisme qui doit peut-être aujourd'hui se réinventer. Peut-être organiquement, peut-être dans le mouvement, vers quelque chose peut-être de moins imposé et universel.
Tout à l'heure, je voudrais juste revenir, puisque ça va un peu avec ce que vous dites. Déjà, je ne change pas, j'évolue. Et en fait, le féminisme, pour moi, c'est un mot trop petit. C'est-à-dire que si on dit que mon film est un film féministe, ça veut dire que mon film ne parle que de la question des femmes. Or, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'au XXIe siècle, le genre est à redéfinir. Et que la féminité et la masculinité sont à repenser. Enfin, ou en tout cas, ils ne sont pas tels qu'on a pu les voir. C'est ça, en fait, qui trouble. C'est que je pense qu'il y a une... et on peut le voir aujourd'hui à travers le personnage de Rebecca. Moi, j'ai voulu jouer sur le contraste. Elle a un haut qui montre sa poitrine, très sexy, très saillant, et ensuite un jogging vers le bas. Et vous, par exemple, je vous regarde et vous avez un jean plutôt moulant et le haut, une sorte de chemise.
Il s'agit de Martin Kenen. Hein.
Voilà. Et donc, du coup, la masculinité et la féminité aujourd'hui, et d'ailleurs la manière dont vous parlez, comment vous posez votre voix, et, la douceur, la grâce, la beauté.
Non, je ne sais plus.
N'est pas uniquement l'apanage des hommes. J'ai voulu jouer avec tous ces codes, en fait. C'est-à-dire que le héros, celle qui sauve, c'est en effet une femme. Celui qui tombe et qui est sauvé est en effet Jiggy. La beauté, la grâce est incarnée par le personnage du garçon et la puissance, le besoin de pouvoir et de reconnaissance par la femme. Parce que je pense qu'il faut casser les frontières de la féminité et de la masculinité et revenir au genre humain. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse. Typiquement, en fait, c'est ce qui vous, moi, vous hommes, vous femmes, qu'est-ce qui nous rend, qu'est-ce qui fait qu'on a quelque chose en commun ? C'est ça qui m'intéresse.
Inclassable et multiple, ce sera le mot d'ordre des identités de demain avec Divine Ping Pong. C'est déjà fini. Et merci pour la première de cette deuxième saison de Ping Pong. Merci à tous.
Merci.
Et à toutes, quel que soit votre genre.
Merci beaucoup, Ouda Benyamina et vos héros. Vos héroïnes, vos divines, qui sont donc qui étaient à nos côtés ce soir, Oulaya Amamra, Déborah Lukumwena, Jiska Kalvanda et le Chtonien terre à terre, Chtonien Oussoufa Hassani et toute l'association Mille Visages avec plusieurs de ces visages qui étaient à nos côtés dans le studio 108. Merci à La Femme, dont le nouvel album Mystère sort le 2 septembre chez Barclay.
Et merci aux équipes de Ping Pong. Le Ping Pong. C'est un petit film radiophonique qui se tourne en équipe. Et quelle équipe ! À la rédaction, Aïssatou Ndoye, Jeanne Léos qui nous a rejoint pour cette saison, Sam Boutata qui nous a rejoint aussi, et Mathilde Cadreau. À la réalisation, Thomas Beau. À la prise de son ce soir, Élise Leu et Pierrick Monsigny. Mais quid de demain, Martin ?
Demain, Mathilde, eh bien, Ping Pong s'empare des frères Karamazov à la suite de Franck Castorf et de son héroïne, Jeanne Balibar, qui viendra nous présenter ce spectacle, présenté, lui, dans le cadre du Festival d'automne, et avec la romancière, la primo-romancière, Elitsa Georgieva, qui nous narre la chute du mur vu de Bulgarie, et c'est hilarant.